vient de la région parisienne.
C'est ça.
Alors, j'étais pas là. Est-ce que vous avez déjà fait des présentations ou pas?
Non.
Non, rien du tout. Vous m'avez attendu quand même. Donc, très bien. Ce qu'on va faire, on va laisser Mathieu nous présenter son message. Et puis après, je vous présenterai Mathieu.
Okay.
Ça vous convient? Je vais prier quand même. Merci. Seigneur, encore merci pour ce culte que l'on peut partager avec les frères et sœurs. Nous sommes bénéficiaires, Seigneur, de cette joie que tu mets dans notre cœur pour t'offrir ce culte. Mais Seigneur, on ne veut pas mal orienter cette gloire qui te revient. Seigneur, on veut ouvrir nos esprits, ouvrir notre intelligence. Et Seigneur, on te remercie pour notre frère Mathieu, qui a pris tant de temps, Seigneur, à étudier ta parole, à la préparer pour que nous puissions être nourris. Seigneur, je te remets encore Mathieu dans ces moments et je te remets aussi nos cœurs et notre intelligence. En ton nom. Amen.
Amen. Bonjour à tous. Si on faisait un micro-trottoir devant la gare de Lyon-Pardieu en demandant « Pour vous, quel serait le monde idéal ?» Beaucoup répondraient probablement un monde sans conflit, sans division, sans haine, où les humains vivraient ensemble dans la paix. À peu de choses près, on aurait quelque chose comme ça. Beaucoup ont envie de cela. Et pourtant, quand on regarde autour de nous, on constate que ce n'est pas si facile à vivre. Même lorsque une Ligue des Champions est gagnée ou lorsqu'une Coupe du Monde serait peut-être gagnée. Les autorités doivent de diverses manières travailler à ce sujet du bien vivre ensemble. C'est un sujet délicat et on peut prier pour nos autorités dans ce sens-là. Quel que soit le groupe social, l'association, un quartier, une ville, un pays, les différences de langue, les différences d'origine, les différences de sensibilité, d'éducation, de culture ou de conviction deviennent souvent source de méfiance, de tension et de séparation. Même dans nos sociétés qui vivent avec une grande diversité, nous avons tendance à nous regrouper seulement avec ceux qui nous ressemblent le plus. Et même dans l'Église. Ah, pas ici, ailleurs. Mais les différences peuvent parfois devenir sujet de friction. Face à ce constat, deux manières de fonctionner ont été présentées. La première, c'est le modèle compote sur votre gauche, qui permet d'effacer toutes les différences dans une sorte de grosse bouillie, où pour vivre ensemble, eh ben on va rechercher l'uniformité. Donc on compresse, on écrase, ça fait de la compote. Et donc on a des pommes, des bananes, des pêches et des oranges, on écrase tout, on fusionne, ça ressemble plus vraiment aux fruits, ça a une saveur qui peut être assez aléatoire selon comment vous faites le mélange. Et en gros, les fruits aux saveurs les plus fortes vont avoir le goût dominant. Autre option, sur votre droite, c'est d'accepter les différences, mais alors à distance, chacun son saladier. Hein. Du coup, chacun peut garder sa culture, ses habitudes, sa manière de voir le monde. On a une belle coexistence. On laisse dans chaque saladier les pommes avec les pommes, les bananes avec les bananes. Je ne dis pas qui sont les bananes, mais en tout cas, il n'y a pas de relation. La Bible nous présente un projet beaucoup plus ambitieux, mais alors vraiment plus ambitieux. Et ce matin, au lieu de zoomer sur un seul texte, ce qu'on a l'habitude de faire dans nos églises, et il faut reconnaître que c'est quand même assez commode, aujourd'hui on va faire un survol de la Bible grand angle. On va voir comment Dieu cherche à rassembler des hommes et des femmes différents, venus de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les cultures, pour former un peuple qui lui appartient, mais pas un peuple à la forme de la compote, pas un peuple à la forme des saladiers chacun séparés, mais un peuple salade de fruits, où chacun peut prendre pleinement sa saveur en Christ et la vivre avec d'autres. Ce que Dieu veut, ce n'est pas fabriquer un peuple où tout le monde se ressemble. Il est notre Père, le Père d'une famille. Et ce matin, donc, je vous propose de voir d'abord comment l'Ancien Testament prépare ce projet de Dieu pour les nations, au travers d'Israël. On va voir ensuite comment Jésus accomplit cette promesse de mettre en place cette famille. Et puis ensuite, voir comment l'Église forme ce peuple interculturelle. Parce que l'Église interculturelle, ce n'est pas une invention moderne, c'est le projet de Dieu de toute éternité. Alors, allons-y. Dès les premières pages de la Bible, Dieu révèle son projet pour l'humanité. En Genèse, on découvre un Dieu créateur qui aime la diversité et qui a aussi un peu d'humour. Si vous n'êtes pas convaincu, vous regardez l'ornithorynque, vous voyez bien que Dieu a de l'humour. Mais on a un Dieu qui aime la diversité. Dans les luminaires, dans les plantes, dans les animaux marins, aériens, terriens, Dieu crée avec un talent artistique qui aujourd'hui encore nous émerveille quand on prend le temps de considérer la beauté de la création. En Genèse 1, versets 26 et 27, que vous pouvez prendre dans vos Bibles, Dieu crée l'être humain, l'Adam, le terrien, homme et femme, il les créa. Un être humain à son image, à sa ressemblance, avec une dignité forte. Et là encore, Dieu crée avec une diversité. Il crée l'homme et la femme. Et à leur suite vont naître des humains de grande taille, de petite taille, plus ou moins épais, avec une variété de formes de visage. Et Dieu ayant créé la génétique et toutes ses potentialités, tout est là. Dit autrement, dès l'origine, l'unité voulue par Dieu n'est pas uniformité. Dieu crée l'homme et la femme, égaux en dignité, mais différents, montrant déjà qu'une diversité harmonieuse fait partie de son projet. Au passage, tout humain est image de Dieu. C'est important pour l'éthique chrétienne. Quel que soit son âge, sa couleur de peau, son éventuel handicap, il a une dignité en lui-même parce qu'il a été créé par Dieu. Il n'y a pas de tri à opérer entre les uns et les autres. Il ne s'agirait pas de classer ou de garder que certains. Dieu a créé tous les humains et les aime tous également. Malheureusement, le péché a conduit rapidement l'humanité à se faire du mal. Avec Genèse 3, les premiers humains ont tourné le dos à Dieu et sont entrés l'incompréhension, les reproches, la violence, des problèmes entre l'homme et la femme d'abord, puis le meurtre du frère ensuite, etc. etc. Et l'homme va alors chercher une autre forme d'unité, fondée non plus sur Dieu, mais sur le pouvoir humain. Et nous voilà dans Genèse 11, avec cet épisode de Babel, sous l'impuissant du puissant Nimrod, que vous trouvez dans Genèse 10. Les hommes veulent construire une ville et une tour afin de se faire un nom et d'empêcher la dispersion sur la terre. Ils cherchent à fusionner l'humanité en un seul bloc, soumis à un même projet. Le texte biblique insiste sur la fabrication des briques. Des grands, des petits qui fabriquent les mêmes briques. Toute la diversité des humains est au service d'un seul projet et d'un seul homme. C'est en fait le premier totalitarisme de l'histoire. Faisons des briques. Cette image n'est pas anodine. Parce que le texte de Genèse, je vous rappelle qu'il a été écrit par Moïse pour un peuple qui, précisément, sait ce que ça veut dire, fabriquer des briques. Rappelez-vous à quel moment ils fabriquent des briques. En esclavage en Égypte, pour le compte du Pharaon. Babel représente la logique impériale et despotique qui transforme les hommes en matériaux interchangeables au service d'un pouvoir centralisateur. Et Dieu va intervenir alors en dispersant les peuples, en diversifiant les langues. Cette dispersion n'est pas simplement un jugement, c'est aussi une protection contre la prétention humaine à construire une unité oppressive. Dieu refuse l'uniformité imposée par les empires. D'ailleurs, l'image de la brique, elle est intéressante. C'est carré, c'est lisse, il n'y a rien qui dépasse. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'une brique, c'est standardisé. S'il y en a une qui est cassée, on peut la changer par une autre, globalement. C'est interchangeable. En fait, une brique, elle n'a aucune identité en elle-même. Mais Dieu ne veut pas bâtir un mur de briques. Et je vous invite à réfléchir au fait que Dieu ne nous appelle pas les briques de son édifice, mais des pierres vivantes. C'est peut-être pas un hasard. Des pierres de formes, de tailles différentes. C'est loin du projet de Babel. La dispersion de Babel, ce n'est pas la fin de l'histoire. Dieu continue. Parce que juste après, en Genèse 12, eh bien, Dieu appelle Abraham. Et alors que les nations sont dispersées, Dieu choisit cet homme pour atteindre toutes les familles de la terre. En Genèse 12, et c'est répété en Genèse 15, une promesse pour Abraham sera source de bénédiction pour tous les peuples. Israël, qui descend d'Abraham, n'est donc jamais choisi contre les nations, mais pour les nations. L'élection d'Abraham est missionnaire dès son origine. Dieu commence avec un homme et une famille afin de bénir l'humanité entière. Et cette vocation de bénir le monde entier, elle apparaît dans les chapitres qui suivent avec le magnifique personnage de Joseph, envoyé en Égypte, qui devient instrument de salut non seulement pour son peuple, son clan, sa famille, mais pour un peuple étranger. Grâce à lui, l'Égypte est préservée de la famine. Dieu utilise le peuple de l'Alliance pour apporter sa bénédiction au-delà des frontières d'Israël. Vous avez le même principe au moment de la sortie d'Égypte. Israël, lorsque Dieu le délivre, ce peuple, Israël doit accueillir en son sein une multitude de gens qui viennent de différentes nationalités, mais qui ont envie d'entrer dans ce peuple. Israël doit être hospitalier. L'Alliance n'est pas conçue comme un club ethnique fermé, mais comme une communauté ouverte à ceux et celles qui veulent marcher avec le Seigneur. Cette orientation se retrouvera en plus au moment du don de la loi, dans Exode 19, versets 5 et 6, où Dieu déclare « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte ». Quel est le rôle d'un prêtre ? Un prêtre, il doit faire le lien entre Dieu et les hommes. Israël est donc appelé à être un peuple de témoins, une vitrine du règne de Dieu sur terre, au milieu des nations. Pourquoi ? Mais pour que les nations aient envie d'adorer Dieu et qu'ils se tournent vers lui. C'est ça le projet dès le départ. Cette vocation de maison témoin se retrouve d'ailleurs dans la loi, notamment dans la loi qui concerne les étrangers. Celui-ci doit être protégé en Israël, respecté, aimé. Israël doit se souvenir qu'il a été lui-même étranger en Égypte. La présence de ces commandements dans la loi montre que Dieu se préoccupe non seulement d'Israël, mais de toutes les nations. Malheureusement, l'histoire d'Israël révèle aussi que cette vocation n'a pas vraiment été suivie par Israël. Au lieu d'être une lumière pour les nations, le peuple tombe souvent dans une vision centrée sur lui-même. Et le livre de Jonas illustre bien ce nationalisme israélite. Jonas, il connaît la grâce de Dieu pour lui, pour Israël. Tout au long du livre, il en profite largement, mais il ne souhaite pas que les Ninivites puissent en profiter. Ça, non. L'indignation et la colère de Jonas devant la repentance de Ninive montrent une tentation récurrente en Israël. Transformer l'élection en privilège exclusif que pour nous. Et l'Ancien Testament montre cette difficulté en Israël de partager, d'être cette lumière pour les nations. Pourtant, même si Israël ne fait pas son boulot dans l'Ancien Testament, Dieu, lui, continue de s'intéresser à des personnes de différentes nations. D'abord, les Ninivites vont finalement être sauvés, mais on a aussi un certain nombre de personnages étrangers qui deviennent des exemples de foi dans l'Ancien Testament. J'en mets juste quelques-uns. Jéthro, le beau-père de Moïse, qui est madianite, Ruth, la moabite, qui devient, pardonnez du peu, l'arrière-grand-mère du roi David, Uri le hittite, qui apparaît plus intègre que le roi lui-même, Naaman le syrien, qui découvre la puissance du Dieu vivant alors que le roi en Israël n'en a rien à carrer. On pourrait rajouter Rahab de Jéricho, on pourrait rajouter la reine de Saba et tellement d'autres tout au long des pages de l'Ancien Testament. Tous ces récits, tous ces personnages nous rappellent que Dieu ne perd pas de vue son projet, bénir toutes les nations en lui. Finalement, Israël et Juda vont être conduits en exil à cause de leur infidélité, l'idolâtrie, le refus de servir Dieu, mais aussi le mauvais traitement réservé aux plus pauvres et aux étrangers en particulier fera partie du catalogue des problématiques. Israël va être dispersé dans les nations. Et pourtant, même dans ce contexte de jugement, Dieu poursuit son projet de bénédiction. En Jérémie 29, dans un texte qui est assez connu, il demande aux exilés de son peuple de rechercher la paix et la prospérité de la ville où ils sont placés. Parce que leur propre paix dépendra de leurs voisins, de la paix de leurs voisins. Ainsi, le peuple de Dieu demeure appelé à bénir toutes les nations. Le projet divin n'a pas changé. Depuis la création jusqu'à l'exil, on a ce même fil conducteur, ce fil rouge qui traverse tout l'Ancien Testament. Dieu veut révéler au monde entier sa gloire au travers d'un peuple qui lui appartient. Et malgré les échecs humains, malgré tout ce qui bloque finalement ce projet, Dieu prépare le jour où des hommes et des femmes de toute langue, de toute culture, de toute nation seront réunis autour de lui. L'Ancien Testament se termine avec cette tension. Israël a reçu la mission d'être lumière des nations, mais n'y est pas parvenu. Il faut donc qu'un Israélite fidèle apparaisse et qu'il accomplisse, lui, cette vocation que Israël, en tant que peuple, n'a pas réussi à mener. C'est précisément ce que Jésus vient faire. Les photos ne sont pas contractuelles. Lorsqu'on arrive aux évangiles, on découvre que Jésus ne vient pas seulement restaurer Israël. Il vient accomplir la promesse faite à Abraham de bénir toutes les nations par sa descendance. Tout au long de son ministère, les auteurs des évangiles soulignent que le salut apporté par Jésus déborde constamment les frontières ethniques, culturelles et religieuses. Je vous montre. Matthieu ouvre son évangile d'une manière un peu bizarre. Vous savez, ces textes qu'on n'aime pas trop lire parce qu'ils ne nous apportent pas grand-chose. La généalogie de Jésus. Mais dans la généalogie de Jésus, vous n'avez pas que des patriarches. Vous avez des femmes, déjà c'est bizarre, mais en plus des femmes étrangères. C'est un théologien allemand qui disait que Jésus a du sang mêlé dans ses racines. C'est intéressant. Tamar, Rahab, Ruth, la femme de Uri le Hittite, Bathsheba. Dès les premières lignes, le Nouveau Testament, au travers de Matthieu, rappelle que l'histoire du Messie est déjà traversée par des personnes venues d'ailleurs. Notez bien, au moment de la naissance de Jésus, dans l'évangile de Matthieu, ce ne sont pas les pharisiens juifs qui viennent, ce sont des étrangers qui débarquent. Ils parcourent des centaines de kilomètres pour se prosterner devant le Messie qu'en Israël on ne veut pas reconnaître. Cette ouverture se poursuit durant tout le ministère de Jésus. À plusieurs reprises, Jésus met en avant la foi des non-juifs. Le centurion de Capernaum reçoit un éloge exceptionnel. Jésus dit « Je n'ai trouvé personne en Israël qui ait une si grande foi. » Pour un juif, ça pique un peu. Jésus ajoute que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident pour prendre place dans le royaume de Dieu. La remarque est saisissante. Alors que certains descendants d'Abraham risquent de rester dehors, des hommes et des femmes venus de toutes les nations seront accueillis à la table du roi. L'évangile de Marc développe ce thème à travers une séquence remarquable. Et j'aimerais attirer votre attention dessus. Dans l'évangile de Marc, vous avez deux multiplications de pain. Je fais rapidement, mais dans le premier cas, ça se passe en Israël, et après une distribution miraculeuse, il reste 12 paniers. En territoire païen, quelques chapitres plus loin, il va rester, après la multiplication des pains, 7 paniers. La Bible annotée indique que si les 12 paniers de la première multiplication évoquaient les 12 tribus d'Israël, les 7 paniers, 7 avec le chiffre de l'universalité pour un juif, évoquent les nations païennes. Et d'ailleurs, je n'ai pas le temps de m'arrêter très longuement, mais les indices textuels sont nombreux. On est en Israël, les gens sont rangés, il y a quelque chose de l'ordre de la loi, alors qu'en territoire païen, il n'y a rien d'imposé, etc. D'ailleurs, si on dézoomait, vous pourriez voir que toute la séquence dans Marc 6 jusqu'à Marc 8 tourne autour du pain. Du pain, du pain, du pain, du pain. Au cœur de tout ça, donc vous avez ces deux multiplications, et au milieu, il y a la foi d'une non-juive. Une non-juive, une syrophénicienne, qui demande à manger des miettes de pain. Bizarre comme texte. L'idée, au cœur de toute cette séquence, c'est que cette étrangère reconnaît en Jésus le Seigneur, et elle croit que sa grâce va atteindre les païens. Et là où certains responsables religieux refusent de reconnaître Jésus, cette femme reconnaît une foi remarquable. Elle dit son attachement à Christ. Et ce n'est pas tout, on pourrait continuer longtemps, parce que la séquence continue avec la guérison d'un sourd muet qui reprend les mêmes termes en grec que la guérison d'un aveugle juif juste après. Et on pourrait continuer encore parce que vous avez la confession de Pierre qui fait écho à la confession de foi de la syrophénicienne. Bref, tout l'évangile est maillé de cet écho juif, non-juif, juif, non-juif. Pourquoi ? Pour qu'on comprenne quel est le fil rouge. Luc, de son côté, n'arrête pas de signaler l'intérêt de Dieu pour les étrangers. Et dès les premiers chapitres, le vieux Siméon, il annonce que Jésus sera une lumière pour éclairer les nations. Dans son discours à Nazareth, en Luc 4, Jésus rappelle que Dieu a envoyé Élie auprès d'une veuve étrangère à Sarepta, qu'il a guéri Naaman le Syrien plutôt que les nombreux lépreux d'Israël. Jésus montre que Dieu s'intéresse depuis toujours aux étrangers. Évidemment, ça ne plaît pas forcément aux pharisiens de l'époque. Mais Jésus le souligne. Plus tard, Jésus fait du Samaritain l'exemple véritable de l'amour du prochain, dans une parabole que vous connaissez très bien. Il souligne aussi que sur les 10 lépreux guéris, un seul revient remercier Dieu et il est Samaritain. Pour Luc, les étrangers ne sont pas des personnages secondaires. Ils deviennent souvent les modèles de la foi authentique. Et Jean ? Eh bien, Jean, lui, il développe un vocabulaire particulier. Il parle constamment du monde. Jésus est présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde pour quiconque croit. En Jean 4, la rencontre avec la Samaritaine, c'est l'un des épisodes les plus importants. Jésus franchit les barrières ethniques, religieuses, sociales. Il révèle son identité de Messie à cette dame, alors qu'habituellement, il essaye plutôt de masquer qui il est. À la fin du récit, les habitants de la ville, tous des étrangers, disent « Nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde ». Même au moment de la crucifixion, les nations sont là. Parce que sur le Titulus, ce petit panneau qui est posé au-dessus de la croix, Pilate fait inscrire dans plusieurs langues la réalité, sans le savoir pour lui, hein, Pilate, que Jésus est le roi. D'ailleurs, au pied de la croix se trouve un centurion romain qui, voyant mourir Jésus, est le premier à reconnaître sa véritable identité. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Les évangiles se terminent par une ouverture explicite vers toutes les nations. Jésus ressuscité envoie ses disciples pour faire de toutes les nations des disciples. On connaît le texte dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Vous retrouvez dans Marc que l'évangile doit être prêché à toute la création. Luc, eh bien, il continue son évangile avec le livre des Actes. Livre des Actes qui part de Jérusalem et qui termine à Rome, capitale de l'Empire mondial. Jean rappelle que Jésus a d'autres brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie, mais qu'il veut les rassembler en un seul troupeau. Bref, les quatre évangiles racontent la même histoire. Jésus est le Messie d'Israël, mais parce qu'il est le Messie d'Israël, il est aussi le sauveur du monde. En lui, la promesse faite à Abraham s'accomplit pleinement. Les nations ne sont plus simplement spectatrices du projet de Dieu, elles sont invitées à entrer dans le peuple de Dieu en Jésus-Christ. Et il faut souligner qu'au cœur de ce projet se trouve la croix qui traite la racine des problèmes. À la croix, Jésus porte notre péché, notre rébellion, et il nous réconcilie avec Dieu, c'est juste. Mais dans notre société postmoderne occidentale, nous avons tendance à oublier que Dieu n'a pas juste donné sa vie pour moi, M-O-A, mais pour nous, Un chrétien est un être ecclésial. Sauvé en Christ, nous faisons immédiatement partie d'une famille qui prie notre Père. On le dit souvent, et c'est juste, la croix est à la fois verticale, dans le sens qu'il y a une réconciliation avec Dieu, mais il y a aussi la réconciliation horizontale des uns avec les autres. Là où le monde produit la méfiance, la compétition, les rivalités, la croix crée un peuple de frères et de sœurs unis en Christ. C'est la grande affirmation de Galates 3, 28, qui reprend les grandes séparations de l'époque. Ce texte indique qu'en Christ, il y a une nouvelle unité qui transcende toutes les différences. Elles ne sont pas abolies. Un juif reste juif, une femme reste femme, un homme reste un homme. Mais elles sont supplantées par l'unité que nous avons en Christ. Et c'est dans ce sens que la scène doit prendre place régulière. Et merci Dino de l'avoir si bien introduite. Parce qu'effectivement, nous sommes, vous et moi, invités à la table du roi. Ce ne sont pas que des juifs qui peuvent prendre la scène. Des gens de toutes les nations y ont leur place pleinement. La croix a été suivie de la résurrection et elle ouvre une espérance pour l'avenir. La résurrection de Jésus, c'est le prémisse d'un monde nouveau que Dieu prépare. Lorsque Dieu ressuscite son Fils, il inaugure déjà une nouvelle création. Et alors que nous vivons aujourd'hui dans un monde imparfait, l'Église est l'anticipation de ce peuple éternel de toutes les nations qui adorera Dieu pour l'éternité. L'Église interculturelle que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui, c'est une anticipation de cette réalité future. Chaque réconciliation vécue, chaque barrière franchie, chaque acte de pardon, chaque repas partagé entre des personnes de cultures différentes que tout séparait autrefois, en Christ, tout ça, ça annonce déjà le royaume qui vient. Avec la venue de Jésus et l'effusion du Saint-Esprit, le projet de Dieu entre dans une nouvelle étape. À la Pentecôte, on assiste à un événement qui ressemble à un anti-Babel. Le texte est construit pour dire l'inverse de Babel. À Babel, les hommes cherchaient à construire leur unité sans Dieu. Ils voulaient rassembler l'humanité autour d'un seul projet, une seule langue, un seul empire humain. Et Dieu les avait dispersés. À la Pentecôte, Dieu ne supprime pas les langues. Il ne les fait pas tous parler en espéranto. Il ne revient pas à une langue unique. Au contraire, chacun entend les merveilles de Dieu dans sa propre langue. Et l'unité qui est produite par l'Esprit à ce moment-là, elle n'efface pas, elle ne gomme pas les cultures. Elle les traverse et les réconcilie. Cette nouvelle humanité est décrite magnifiquement par Paul en Éphésiens 2. Et Dino nous a lu le texte, alors je ne vais pas le relire exprès. Christ a renversé le mur de séparation qui divisait juifs et non-juifs. Il n'a pas simplement rapproché deux groupes, il a créé un seul et nouveau même groupe. C'est toute la thématique du corps unique qu'est l'Église. J'aime le dire, cette image du corps, elle est à rapprocher de l'image de l'épouse. Christ a une seule épouse et pas un harem. C'est donc pas un rassemblement de communautés qui cohabitent dans l'Église, c'est un seul et même peuple qui crie, qui prie, qui chante « Notre Père !» ensemble. Une nouvelle humanité réconciliée. Et cette réalité, elle apparaît immédiatement dès le premier chapitre du livre des Actes. On a des personnes de toute origine qui se mettent ensemble. Et puis l'Évangile va toucher des Samaritains, puis des Éthiopiens, puis bientôt des Européens avec des Grecs et des Romains. Très vite, l'Église est multiculturelle. Et c'est d'ailleurs pour ça que le premier conflit majeur de l'Église, dans Actes 6, c'est un conflit interculturel. Les disciples de culture grecque se plaignent. Leurs veuves sont défavorisées dans les distributions quotidiennes. Et c'est un conflit qui est très instructif. S'il y a conflit, c'est que l'Église vit ensemble. Il n'y a pas une communauté juive et une communauté grecque. Et je vous attire votre attention sur le fait que ça ne devait pas être simple. Parce que quand on vous demande de chanter dans une autre langue, j'aime pas ça. quand vous êtes juif et que vous avez des grecs et qui commencent à chanter en grec, non mais les grecs c'est des païens, on va quand même pas chanter dans leur langue, la langue religieuse c'est l'hébreu. Et vous sentez bien cette tension. Et bien dans acte 6, c'est très instructif. On a des plaintes, et ces plaintes ne sont pas balayées par les apôtres en disant « Vous les Grecs, cassez les pieds, allez vous faire voir chez les Grecs. » Oh, pardon, c'est pas ça qu'ils ont dit. Non, ils nient pas les difficultés, ils les prennent au sérieux. Mieux, ils vont nommer responsables des gens de culture grecque pour gérer la problématique au nom de l'Église. Ils délèguent. Le texte précise qu'il fallait choisir des hommes remplis de sagesse et du Saint-Esprit. Dit autrement, on a même chez les Grecs des gens sages et remplis du Saint-Esprit. C'est une magnifique illustration de l'interculturalité chrétienne. L'unité de l'esprit conduit à faire confiance à des frères et des sœurs différents de nous. L'Église ne se contente pas de tolérer la diversité, elle lui fait réellement place. Elle accepte de partager des responsabilités, d'écouter les besoins exprimés et de construire ensemble. Cette distinction est importante entre la multiculturalité et l'interculturalité. Je m'explique. La multiculturalité, c'est un fait. Il y a des personnes de différentes cultures qui sont dans la même salle. C'est la multiculturalité. Vous avez la même dans les supermarchés. Bon, on n'est pas obligé de se parler. Juste, il y a un fait, on est multiculturel, c'est comme ça. L'interculturalité, c'est un choix. C'est le fait de décider de ne pas simplement être une compote ou des saladiers séparés, mais de vivre intentionnellement quelque chose de l'ordre du peuple de Dieu, anticipation du royaume, dès maintenant. Cette décision de vivre ensemble, de s'écouter, de se faire confiance, de construire une vie commune où la saveur des uns des autres pourra s'exprimer, ah, c'est pas confortable. Mais le texte biblique nous y pousse quand même, franchement. Beaucoup de villes sont multiculturelles, mais peu de communautés le sont en réalité. L'Église est appelée à l'interculturalité. Ni compote, ni buffet de fruits séparés, mais salade de fruits ajustés. Acte 15, c'est sans doute le moment le plus spectaculaire de cette démarche. Parce que l'arrivée massive de non-juifs va présenter une crise majeure dans l'Église. Certains pensent qu'il faut absolument que tous les chrétiens aient les marqueurs juifs avant d'être chrétiens. Et donc, la grande question, c'est de dire, tous ceux qui arrivent dans l'Église, on va les circoncire, ils vont manger kasher et ils vont respecter Shabbat. Ah oui, Dieu nous avait dit ça dans l'Ancien Testament, on ne va quand même pas tout changer maintenant. C'est aux gens de s'adapter à notre culture. Ils viennent, ils débarquent, ils s'adaptent. Toute correspondance. Hein. Mais d'autres comprennent, et Paul en tête, que Dieu accueille les nations telles qu'elles sont. Le Concile de Jérusalem doit donc discerner comment rester fidèle à l'évangile de Jésus-Christ sans imposer à tous une seule et même culture. Grand débat. Mais à la sortie, c'est une église interculturelle et pas une compote. La même question se pose dans Romains 14 et 15. Certains donc sont convaincus qu'il faut respecter les jours, le Shabbat, qu'il faut manger kasher, alors que d'autres dans l'église, avec un arrière-plan culturel plutôt gréco-romain, n'en tiennent pas compte. Certains mangent même des viandes qui étaient sacrifiées autrefois aux idoles. Honnêtement, je ne suis pas certain que si j'avais été juif au 1er siècle, ces questions m'auraient paru secondaires. Pour Paul, c'est le cas. Il dit que ça ne touche pas au cœur de la foi. Et Paul était capable de distinguer la participation à un culte idolâtre qu'il rejetait fermement et l'usage de la nourriture quotidienne qui était devenue courante. Mais pour des juifs chrétiens, c'était assez scandaleux cette liberté qui était prise. Mais si vous regardez Romains 14, 15, Paul, il n'exige pas que tout le monde mange kasher. Cette question, elle demeure finalement d'une actualité très étonnante pour aujourd'hui. Le rapport entre les évangiles et les cultures, il est complexe. Parfois, on imagine que la culture C'est comme, vous savez, une pêche, vous avez la peau, la chair, et puis dedans, vous avez le noyau, d'accord ? Et on imagine que la culture, c'est la peau et la chair, et dedans, le noyau, on a l'évangile. Donc, on gratte la culture, comme ça, et après, on garde l'évangile. Le problème, c'est que l'image n'est pas très bonne. Elle est un peu trompeuse. En fait, une autre comparaison est plus juste. C'est celle de l'oignon. Notre culture, elle ressemble aux différentes couches que compose un oignon. Nos habitudes, nos réactions, notre rapport à l'autorité, notre rapport au temps, notre rapport à la famille, à l'argent, à la fête, à la boisson. Tout ça, c'est façonné par notre culture. Bon, alors si j'épluche, à quel moment j'arrive au noyau ? Ben, il n'y a plus rien. Si on retire couche après couche, il ne reste plus rien. Et c'est essentiel de le réaliser. L'évangile, ce n'est pas une couche de plus. Non. L'évangile vient habiter toutes nos couches d'oignons. En fait, l'évangile vient éclairer, questionner et parfois remodeler nos cultures. On a un exemple dans ce que Paul vit avec Pierre, en Galates 2. Pierre, il est en train de manger avec des non-juifs. Tout va bien. Et puis, il y a des frères juifs qui arrivent. Et Pierre, il sait que, en tant que juif, il ne doit pas trop se mélanger avec des non-juifs. Donc, il se lève de table et il change de table. Paul le reprend sévèrement en disant qu'il est en train de tronquer l'évangile avec son fond culturel juif qui sépare. Comprenez-moi bien, l'évangile ne détruit pas les cultures, il les purifie. Parce que dans toutes nos cultures, il y a des bonnes choses qui reflète quelque chose de la gloire de Dieu, et il y a des choses qui doivent être revues à la lumière de l'Évangile. Nos cultures proviennent d'héritages à la fois créationnels et à la fois pécheurs. Il y a donc du tri à faire dans nos cultures, mais dans toutes nos cultures. L'Évangile, en réalité, c'est un diamant aux mille facettes, et les cultures font scintiller la beauté de l'Évangile de diverses manières. Et nous aurions tort de nous priver de la beauté des cultures qui font briller l'Évangile. Et c'est pour ça que l'Église va chanter, prier, témoigner et célébrer Dieu de différentes manières aux quatre coins du monde. J'ai eu l'occasion d'aller en Malaisie, en Corée, au Bénin, à Madagascar. C'est pas la même chose qu'en France, en Suisse et en Belgique. Mais c'est le même Évangile, le même Seigneur qui est adoré, avec des couleurs différentes. Cette diversité, elle produit parfois des incompréhensions, parce qu'on ne vit pas notre foi de la même manière. On a des sensibilités qui diffèrent, on a des attentes qui diffèrent. Et lorsque le péché s'en mêle, les blessures peuvent apparaître. C'est pourquoi le pardon et la réconciliation occupent une place tellement centrale dans la vie de l'Église. Vous connaissez ce célèbre verset, « Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». On le cite souvent dans nos réunions de prière, parce qu'on est souvent peu. Non, pas ici, ailleurs. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce texte, il n'est pas un texte en suspension dans le vide. Il se trouve dans Matthieu 18, où il est question du pardon et de la réconciliation. Le texte, dans son contexte, donné par Jésus, parle des conflits, de la correction fraternelle et du pardon. Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom et qu'ils ont réussi à se réconcilier après des tensions, là je suis au milieu d'eux. Une église qui porte les fardeaux des uns des autres, qui vit le pardon, qui vit la réconciliation, alors que dans la société, il n'y a nul autre endroit où on peut le vivre, parce qu'il n'y a pas Christ ailleurs. L'église, alors, est lieu de la présence de Dieu. C'est finalement vers cette vision que toute la Bible converge. Texte qui a été lu deux fois ce matin. Apocalypse 7, verset 9. Où Jean contemple une foule immense que personne ne peut compter. Comme les étoiles et les grains de sable d'Abraham. Des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue et tous adorent le même Seigneur. Dans les derniers chapitres de l'Apocalypse, l'Église est présentée sous les traits de l'épouse, la Nouvelle Jérusalem, en opposition à la prostituée, à la Babylone. Et toute cette vision montre des gens de toutes les nations qui honorent le Seigneur. Le Seigneur Jésus a prié que tous soit un. La prière de Jésus, elle résume la grande fresque que l'on vient de parcourir. L'Église interculturelle, ce n'est pas une mode contemporaine, ni un projet sociologique. C'est un des fils rouges les plus importants de l'histoire du salut. Depuis le Jardin d'Éden jusqu'à la Nouvelle Jérusalem, Dieu rassemble un peuple diversifié et uni autour de lui. Il a donné sa vie, pas juste pour moi, Éphésiens 5, 25, Christ a aimé l'Église et il a donné sa vie pour elle. Chaque fois qu'une Église choisit de vivre la réconciliation, malgré les différences et les tensions, chaque fois qu'une Église décide de vivre intentionnellement les uns avec les autres, elle devient un avant-goût du royaume. Au début de cette prédication, je me suis demandé si c'était vraiment possible pour des personnes tellement différentes de vivre ensemble dans une véritable communion. Ce rêve que tous les humains aimeraient vivre, un monde parfait, sans guerre, sans dispute. Humainement, c'est impossible. Mais par l'action de l'Esprit, en Christ, en suivant l'enseignement biblique, nous pourrions goûter quelque chose du royaume qui vient. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour la grandeur de ton projet dans lequel tu nous rends participants. Seigneur, c'est bouleversant de voir à quel point tu nous as aimés. Tu ne t'es pas simplement focalisé sur les Juifs. Nous sommes, les uns et les autres ici, peut-être à quelques exceptions près, tous des étrangers que tu as acceptés dans ton peuple. Nous sommes au bénéfice d'un Juif qui a donné sa vie, le Fils de Dieu, qui était venu pour nous aussi. Mais contrairement à notre regard postmoderne, tu n'es pas simplement venu pour des individus, mais tu es venu pour te constituer un seul et même peuple. Seigneur, donne-nous sagesse, discernement, pour pouvoir vivre le projet que tu nous appelles à vivre, ici et maintenant, et pour l'éternité. Seigneur, nous ne pouvons pas y arriver sans toi. Nous voulons donc te demander ton aide, te demander pardon pour notre compréhension individualiste du salut, parfois aussi très monoculturelle de l'Église, alors que toi, depuis le début, tu vois toutes les nations devant toi. Seigneur, viens-nous en aide. Et je te prie, Seigneur, que ton esprit soit manifesté dans nos vies et dans ton Église. Amen.